Alors, autre interprétation, une interprétation plus temporelle, qui est un peu plus... enfin voilà, une autre interprétation qui est peut-être moins principale, mais qui, que je trouve intéressante. En fait, on peut voir dans les lettres aux sept églises une description un peu du fil rouge spirituel qui se déroule dans cette période, parce que le temps se déroule et le Seigneur a un plan d'amour pour les sept périodes du temps. Voilà. Et on retrouvait ces sept périodes dans l'Ancien Testament, dans la vie de Jésus et à notre époque à nous. Et c'est bluffant de voir les liens qu'il y a. Et donc je vais vous montrer par exemple pour la lettre à Pergame, le séjour du peuple hébreu au désert, Josué et les juges. Voilà, c'est ça la période. Vous voyez, quand à partir du moment où le peuple sort d'Égypte, et jusqu'à au livre des juges, vous savez, ça reste un peuple petit et pauvre qui est à Canaan et qui fait son trou petit à petit, et puis qui s'éloigne de Dieu, et puis Dieu suscite des gens comme Samson ou Déborah ou autres qui vont, comme Jeanne d'Arc, un peu bouter les Anglais hors de France, vous voyez. Voilà. Et donc, on retrouve ça. Donc c'est au désert que le peuple reçoit la manne. Là, vous voyez, la lettre fait mention de la manne, reçoit les cailles et reçoit le rocher qui donne l'eau vive. C'est la période où on a le Sinaï, où Moïse reçoit la Torah. Vous voyez, donc on a ça. Hein, je te donnerai la manne. Je viens à toi sans tarder avec le glaive de ma bouche. Je les combattrai. Vous voyez, il y a les 10 commandements qui sont comme un glaive qui va faire la lumière un petit peu sur des choses qui peuvent aider à avancer vers Dieu. C'est également dans cette période que le peuple est tenté par la lassitude au désert. Hein, le premier péché du peuple, c'est de se lasser. Et puis la lassitude, c'est je mange trop, puis je commence à critiquer et à récriminer. Et puis après, on fait le veau d'or, etc. Vous voyez, il y a les péchés qui vont croissant. Donc ça, c'est surtout Balaam, le devin à l'époque, dont fait mention cette lettre aux sept églises, qui en fait, comme il n'arrive pas à maudire Israël, il va envoyer des filles très jolies pour séduire le peuple, en fait. Vous voyez, donc c'est un peu l'intelligence mal utilisée pour utiliser quelque chose, la beauté de la femme, qui normalement est quelque chose d'extraordinaire, pour pervertir l'humanité. En fait, on va utiliser ce qu'il y a de plus beau sur la Terre pour pervertir le plus possible l'humanité. Voilà. Bon, y a des psaumes qui sont écrits aussi à cette époque-là par les fils de Corée, etc. Quand on regarde la vie de Jésus, donc la troisième période de la vie de Jésus, il prépare sa vie publique au désert, où il prépare durement son corps d'homme, il aiguise son épée. En quelque sorte, il nous montre comment aiguiser notre épée, c'est-à-dire dans le désert de l'horizon, on va avoir une capacité à ingurgiter la parole de Dieu, si on lit la parole de Dieu et puis qu'on se tourne vers lui, pour que les paroles qu'on prononce soient beaucoup plus inspirées du Seigneur et un effet tranchant, c'est-à-dire un effet purificateur pour notre entourage, vous voyez. On retrouve le glaive. Donc ça va lui permettre de combattre ces mauvaises voix qu'il entend dans le désert, le démon qu'il tente dans les derniers jours. Alors, enfin... Dans l'absolu, il n'aurait pas eu besoin de ça, mais comme il s'est fait homme, il a voulu montrer comment un homme s'y prend pour combattre le combat spirituel, notamment dans les périodes de désert. Ensuite, il appelle ses disciples et il donne un nom nouveau à certains. Et les autres, moi je pense qu'il leur donne un nom aussi, mais qui n'est pas raconté dans l'évangile. Hein. J'ai parlé de Saint-Pierre. On a Jean aussi qui reçoit un nom nouveau. Le nom de Jean, il y a plusieurs manières de l'écrire, et à la fin de l'évangile de Jean, on voit que le nom, il y a une lettre qui a changé. Vous voyez, si on analyse ça au niveau de l'hébreu, c'est hyper intéressant de voir un petit peu à quel point Jean, qui était un amoureux de Jésus, est devenu comme son maître tellement il était... vous voyez, et c'est un peu le précurseur des contemplatifs, vous voyez, qui vont tellement être en contemplation devant Jésus qu'ils vont devenir d'autres Christ, vous voyez, Yohanan. Et voilà. Il réalise son ministère en Judée, il se révèle à Nicodème et à la Samaritaine, il se révèle la véritable manne, quand il dit que nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, qu'il va donner l'eau vive, il s'inscrit en faux par rapport aux dérives pharisiennes, les zélotes, les sadducéens, etc., qu'on peut comparer aux doctrines de Balaam, vous voyez. Donc on retrouve tous ces éléments-là, on les retrouve dans la vie de Jésus. C'est bluffant de voir à quel point Jésus s'est abaissé, en quelque sorte, à faire exprès de vivre d'une manière qui respecte ces temps un petit peu que le Père de toute éternité avait... c'était proposé de donner aux hommes pour que les hommes comprennent un petit peu le monde dans lequel ils vivent, qu'ils comprennent un petit peu la sensibilité particulière d'une époque donnée, vous voyez. À notre époque, dans les 2000 ans, depuis 2000 ans, c'est l'âge des pères de l'Église, voilà, des gens qui savent concilier une intense vie de prière au désert notamment et de prédication. Et à cette époque, il y a l'intelligence de l'Église qui est illuminée. Voilà, donc c'est les deux tranchants de la parole de Dieu. On peut penser aussi les deux tranchants, un peu comme les écoles d'Orient et d'Occident. Vous savez, il y a les pères d'Église de l'Orient et de l'Occident. Voilà, on peut faire le parallèle. La doctrine des Nicolaïtes, c'est tout à fait en droite ligne des mauvais fruits qu'on a vus tout à l'heure avec les incestes et adultères. Hein, c'est les hérésies en fait combattues par les pères, parce que toutes les quand on parle de prostitution dans la Bible, il s'agit en fait de donner la main à l'ennemi en quelque sorte, c'est-à-dire de suivre les mauvaises inspirations, vous voyez, et donc il y avait beaucoup d'hérésies à l'époque. Voilà. Et donc l'Église, elle est plus soumise aux persécutions à cette époque-là. Donc on voit, il y a la rédaction de canons, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses qui vont être affermies dans l'Église, des textes de référence qui nous servent encore aujourd'hui pour combattre ces hérésies. Et c'est dans cette période que les hérésies vont s'accentuer et qui vont donner naissance à l'islam, en fait, qui nie la divinité du Christ. Voilà. Évidemment, en tant que musulman, on peut devenir un grand saint parce que Dieu passe par tous les moyens, y compris par le Coran. Mais l'islam en tant que tel a quelque chose, finalement, qui va nier une partie de l'essence de Dieu, vous voyez, parce que Jésus est mort en croix, alors que l'islam dit, c'est quelqu'un d'autre qui a été mis en place, à sa place sur la croix, et finalement, d'un point de vue strictement historique, je me dis, c'est pas sympa de s'attaquer, de nier la faiblesse de l'Église, qui est le Christ qui s'est fait le plus faible, vous voyez, je trouve ça aussi triste que quelqu'un qui nierait la Shoah, parce que je trouve ça presque blessant qu'on me dise non, il n'est pas mort en croix, Jésus, vous voyez. Et ben l'islam va faire ça, va oser faire ça. Donc finalement, cette troisième période, si je résume avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament à l'époque de Jésus au désert et puis dans l'époque des pères de l'Église, nous montre le bénéfice du temps du désert dans lequel l'intelligence et le cœur sont fortifiés pour recevoir notre nom nouveau et la mission propre que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Et ça correspond à la troisième création de Dieu aussi, parce qu'on peut mettre ça en parallèle aussi, où Dieu sépare la terre des eaux pour les rassembler en un même lieu, voyez. En fait, on retrouve ces sept moments partout dans la Bible. Voilà, il y a les arbres et les fruits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fruits produits dans cette période-là. Voilà, le nom nouveau, c'est une période où les fruits sont produits, et quand on lit la Genèse, vous y penserez quand vous relirez, c'est à cette période-là que Dieu, et le troisième jour, Dieu créa tous les arbres, et tous les fruits, toutes les espèces, et voilà, il y a une fécondité extraordinaire. Et donc il y a des fruits inépuisables, hein, parce qu'on a les 10 commandements, on a à l'époque de Jésus le sermon sur la montagne, où il y a un peu, c'est un peu un traité pour la vie chrétienne. Rien qu'en lisant le sermon sur la montagne, il y a quelque chose d'immense. Voilà. Et puis les écrits des pères de l'Église, hein, qui sont comme une sortie du Seigneur de sa demeure sainte pour venir habiter parmi son peuple. Voilà.